En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Il y a une petite zone d'incertitude. En fait, c'est 25 années de pratique de psychiatrie de l'avant, on va dire. Et ça correspond d'ailleurs à mes 25 ans de psychiatrie, puisqu'avant j'étais médecin généraliste dans les forces pendant 4 ans. Alors mon propos, c'est finalement, à travers cette présentation, que vous puissiez vous représenter ce que c'est que le travail d'un psychiatre en situation opérationnelle. Alors, je suis assez content aussi de les exposer avant, parce que ça va me permettre de ne pas rentrer dans le détail des manifestations cliniques, mais on pourra en reparler par la suite, si vous voulez, notamment des états de stress post-traumatique. J'ai exclu de cette présentation les données chiffrées, mais je les tiens à votre disposition, si vous voulez, après, pour la discussion. Et je vais plutôt essayer de montrer quel est le parcours, comme ça, du psychiatre. Et je reprendrai dans un temps de mon exposé une expérience à partir du journal que j'avais fait sur une action en Afghanistan. Donc, ce qu'il faut déjà savoir au préalable, c'est que dans le temps ordinaire de ma pratique, je suis dans un hôpital qui accueille des militaires et des civils. Donc, je prends en charge les patients hospitalisés ambulatoires. J'ai des activités d'expertise, de recherche et d'enseignement, assez, comme beaucoup de médecins. Je recrute donc beaucoup de patients dans le vivier militaire, mais aussi dans le bassin territorial de Paris-Sud, Paris-Sud-Ouest. Et puis, nous sommes régulièrement, nous, psychiatres militaires, sollicités pour travailler dans des contextes de crise à l'extérieur des frontières, qui sont souvent des interventions armées, de différents registres, hein, des interventions de combat, des interventions armées classiques de type Afghanistan, ou un petit peu particulières d'interposition, comme la Bosnie. Pour un certain nombre, je les connais aussi. Donc, ils m'interpellent concernant les soldats qui ont combattu et dont ils ont la responsabilité. Ils me font état de leur première constatation clinique sur leur état psychique, beaucoup d'états de stress aigu, avec ces syndromes de répétition traumatique qu'on a évoqués tout à l'heure, ou des syndromes de dissociation, c'est-à-dire d'altération de la conscience, plus ou moins légers, avec des troubles de la mémoire, avec des troubles de la perception du temps, un certain nombre de données où on sent que la vigilance a pu être altérée. Ils s'interrogent aussi sur la capacité pour certains d'entre eux à poursuivre la mission, tout en évoquant les préoccupations du commandement, notamment quant au risque pour l'opération au cas où un certain nombre de ces personnels en difficulté devraient être extraits du théâtre. Et puis, je dirais qu'ils font état aussi de leur propre expérience subjective de ce qui s'est passé, puisque beaucoup, étaient présents ou ont rejoint la phase de combat et se sont retrouvés donc sous les tirs nourris des talibans. Donc l'ensemble de ces contacts, c'est très important de prendre le temps d'avoir une vision extrêmement précise de ce qui s'est passé, puisque vous allez avoir à construire votre dispositif, je dirais, de prise en charge, d'évaluation et de prise en charge dans un contexte où les opérations militaires continuent. Donc il faut les intercaler dans une ambiance quand même de menace, puisque vous allez vous déplacer sur les zones, je dirais, à proximité des combats. Donc, et c'est légitime, on sent bien que le commandement a des préoccupations majeures. Ils vous intègrent dans le champ de ce qu'il est nécessaire de faire, mais en même temps, je dirais, dans la hiérarchisation de ce qu'il y a à faire, on n'est bien évidemment pas au sommet, et c'est tout à fait compréhensible. Bon, les choses ne sont pas très compliquées finalement, puisqu'on peut assez vite repérer des groupes particulièrement exposés, je dirais, à un retentissement psychique. Les rescapés de la section d'embuscade, 30 militaires, 9 morts, hein, donc ça fait une vingtaine de personnels, leur chef, les soldats des sections qui sont intervenus en renfort. Je dois dire quand même que ce combat a duré presque 24 heures. Hein, c'était un très long combat qui a commencé en début d'après-midi, qui s'est poursuivi la nuit et jusqu'au lendemain, fin de matinée. Les équipes médicales engagées sur la zone de combat et le groupement médico-chirurgical. Ça faisait près de 300 personnes, et je peux vous assurer que même en faisant très très bien, on oublie toujours certains d'entre eux, la prévôté, les gendarmes par exemple, les équipages des hélicoptères. Donc après, tout d'un coup, on s'aperçoit, soit de façon un peu fortuite, soit en reprenant les choses, qu'on est passé à côté de certains. Et puis, il y a une structure institutionnelle de l'armée de terre, la cellule d'intervention et de soutien psychologique de l'armée de terre, la CISPAT, qui a été dépêchée depuis Paris, qui est arrivée 2 ou 3 jours après, et qui a été pour moi un appoint quand même tout à fait utile, étant donné le volume des effectifs qu'il fallait prendre en compte. Donc, la méthode de travail, c'est celle qu'une pratique répétée de la psychiatrie en situation opérationnelle, je dirais, nous a permis d'éprouver. C'est pour souvent le débriefing collectif et parfois individuel, qui sont des entretiens psychologiques en groupe qui se réalisent avec des petits groupes déjà constitués. L'équipe médicale, le groupe de combat, c'est des équipes, je dirais, maximum 12-13 personnes. Et ces moments d'échange sont animés par le psychiatre. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette approche ? Eh bien, c'est de favoriser l'expression et le partage des vécus individuels de l'expérience traversée, et d'atténuer la tension psychique, de surcroît, je dirais, de renforcer la cohésion du groupe et aussi de permettre un premier contact avec un psychiatre qui soit susceptible de favoriser ultérieurement, s'il était besoin, un accès aux soins. Alors, bon, c'est discuté. Bon, il y a eu quand même des études qui elles aussi sont discutées, qui ont été faites sur le sujet. On ne pense pas que ce type d'approche permette une réelle prévention des états de stress post-traumatique. Ça n'est pas pour nous l'objectif recherché, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand il y a eu l'effraction traumatique, quand le traumatisme s'est produit, il est là. Et des débriefings ne permettent pas de colmater la brèche. Alors, juste quelques principes comme ça que j'ai notés concernant ce qui sous-tend nos actions, c'est que quelle que soit la méthode utilisée, qu'elle soit collective ou individuelle, et puis parfois c'est l'une suivie de l'autre, une place centrale est accordée à l'examen des statuts singuliers, avec bien sûr la préoccupation de mettre à distance le risque de stigmatisation, mais aussi celui de victimisation qui résulterait de la réduction du sujet à sa souffrance psychique. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une population assez différenciée, avec ses caractéristiques propres, ce sont des militaires, et on n'est pas là, je dirais, dans une approche où vous abordez ce qui s'est passé comme un accident aléatoire. Et lorsqu'il y a eu la décision politique d'amener les familles des victimes, des blessés, sur le théâtre d'opération, ça a été quelque chose de totalement incongru sur un théâtre opérationnel qui est considéré par les militaires, et moi aussi comme militaire, comme sanctuarisé, je dirais, par rapport à l'intrusion des familles, par exemple. Et donc on a eu à gérer comme ça des phénomènes tout à fait curieux, où on avait le sentiment qu'on était là un petit peu dans un fait du registre d'un accident d'avion, par exemple, hein, et qu'on emmenait comme ça sur le site les familles. Ça s'est produit, hein, quand même. C'était un geste politique. Ça ne s'est pas passé mal, d'ailleurs, je dois dire, j'étais un petit peu étonné. Mais on a, au début, là, ce qui était prévu, c'était que ce soit sur le site de l'unité où étaient implantés ces soldats, et on a réussi à confiner ça sur la grande base de Kaboul et d'éviter de balader sur un théâtre opérationnel des familles endeuillées, éprouvées, etc. Alors, très rapidement, la quasi-totalité des soldats rescapés de l'embuscade, mais aussi beaucoup de ceux des sections de renfort, ayant procédé sous le feu au ramassage de leurs camarades morts, ont présenté des troubles psychotraumatiques d'apparition précoce, pour la plupart d'intensité sévère et avec des évolutions favorables. Quelques jours pour les plus favorables, mais il y a un certain nombre d'entre eux que je suis toujours, parfois qui viennent de très loin, parce que la rencontre sur le théâtre opérationnel permet de nouer des liens assez particuliers, je dirais, et on peut considérer, il y a un suivi de cohorte qui est fait, dont nous n'avons pas encore exploité les résultats, mais que sur ces militaires de la section qui a été endeuillée et des sections de renfort, il y a eu un très gros taux de prévalence de troubles et le maintien pour un certain nombre d'entre eux d'états de stress post-traumatique actifs symptomatiquement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la clinique parce que ça va m'amener un peu trop loin en temps. Concernant les débriefings psychologiques, je vous disais des petits groupes, 8, 12 soldats. Et chacun de ces débriefings a été l'occasion de vérifier, je dirais, notamment à travers la qualité de la parole et de sa circulation, la qualité du fonctionnement de ces petits groupes de combattants, des liens de solidarité, d'entraide. C'est vraiment tout à fait impressionnant. Et ce qui était assez intéressant, je notais quelques petits points, hein, l'acceptation au moment de ces échanges collectifs par certains, et en général c'est le chef qui commence là-dessus, sans honte et sans opprobre, de parler de la peur ressentie pendant le combat. Et ce n'est pas recherché hein, par celui qui anime, en l'occurrence c'était moi, ces groupes, mais il y a quelque chose qui est abordé très spontanément du contenu émotionnel du combat et qui vient comme ça rassurer beaucoup les soldats, parce qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse, et je dirais même que nous, psychiatres, un soldat dans ces situations-là, sans anxiété, a plutôt tendance à nous inquiéter beaucoup, nous. Mais une parole quand même assez libre. Et aussi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de soutien qui était témoigné par le collectif vis-à-vis de ceux qui, au cours de l'action, avaient pu présenter des moments de défaillance. Donc on sent qu'il y a une dynamique de groupe assez réparatrice qui montre qu'il y a un fonctionnement tout à fait intéressant. Et puis, un autre aspect de ces débriefings, c'est que l'attention témoignée par chacun au récit de l'autre qui permet une sorte de reconstitution à partir de fragments épars d'un récit commun acceptable par tous. Hein, et ça, il y a un petit côté, je dirais, technique, reconstitutif, qui plaît beaucoup aux militaires, puisqu'ils ont une vision d'ensemble de ce qui s'est passé. Et en même temps, dans ces groupes de combat de cette section, on s'est aperçu aussi qu'il y avait quand même beaucoup d'amertume, beaucoup de griefs, et qui ont pu s'atténuer en partie, ce n'était pas l'objectif, mais ça s'est trouvé comme ça, par le récit des équipes médicales de secours qui ont expliqué toute leur angoisse, je dirais leur frustration sur le parcours pour pouvoir leur porter secours, de ne pas pouvoir avoir été présent sur les lieux plus tôt. Alors, ce que je voudrais dire concernant l'Afghanistan, et plus particulièrement la période 2008-2011, c'est vraiment une période pour nous charnière, au cours de laquelle l'institution militaire, ses grands chefs, prennent véritablement la mesure de l'impact psychique des OPEC sur les soldats. Et pourtant, je trouve que cette opération n'a rien révélé de nouveau, si ce n'est qu'elle a permis quand même que le projecteur soit braqué sur ceux des militaires qui ont laissé quelque chose d'eux-mêmes, une part physique ou une part psychique, souvent les deux associés dans l'action opérationnelle. Et ça serait là, au fond, une définition possible du blessé en opération, c'est une atteinte de l'intégrité de l'être, de l'atteinte de l'intégrité psychique ou physique du fait d'actions opérationnelles qui peuvent être des actions de combat, mais aussi l'accidentalité qui est très augmentée dans un contexte où les risques pris sont beaucoup plus élevés que dans des situations ordinaires. Voilà, c'était les quelques points que je voulais aborder pour l'Afghanistan. D'autres missions que je vous cite juste, tout à fait particulières. J'ai fait l'ouverture d'un théâtre singulier en Jordanie. Alors c'est un théâtre qui n'était pas un théâtre, je dirais, d'intervention armée, qui était l'ouverture et l'animation d'une antenne médico-psychologique dans une structure médico-chirurgicale française implantée dans le camp de réfugiés de Za'atari, avec la prise en charge de ces réfugiés syriens. Dans un camp, quand je suis arrivé, il y avait 10 000 personnes, quand j'en suis parti, il y avait 50 000, et mon successeur, 4 mois après son arrivée, il y en avait plus de 100 000, hein, donc une croissance absolument exponentielle, et la mise en place d'un réseau de santé mentale dans ce camp qui associait les organisations internationales et les ONG. Un mot du Mali, alors Jordanie 2010, pour vous montrer un peu les strates d'opérations extérieures, le Mali 2013, début 2013, l'intensité et la dureté des combats. Du point de vue de l'activité du psychiatre, pas d'éléments particuliers par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, sauf qu'en 3 semaines, il y a eu 90 débriefings collectifs sur des petits groupes qui avaient participé à des combats à la fois extrêmement intenses et très courts. Et un constat sur l'épuisement physiologique des soldats au Mali, qui est un facteur, je dirais, aussi de vulnérabilité du point de vue du retentissement psychologique. Un petit mot de Sangaris, qui est la dernière opération extérieure à laquelle j'ai participé, là aussi pour l'ouverture de théâtre en 2014, donc la Centrafrique, et vous donner quelques éléments de réflexion. Donc là aussi, l'arrivée du psychiatre a été déclenchée par la mort de soldats français. Il se trouve que c'était comme pour l'Afghanistan, c'était le même régiment, donc 6 ans auparavant. Et j'ai retrouvé dans mon arrivée assez rapide, quelques jours après la mort de ces deux soldats au combat, un certain nombre de militaires que j'avais rencontrés en Afghanistan ces années auparavant. Et c'est, à mon avis, un des points perfectibles de nos actions ou l'action psychiatrique telle qu'elle est pensée au niveau du service de santé des armées. Ce dont on s'aperçoit, c'est que sur les interventions armées, c'est souvent un événement à un fort impact psychologique qui va déterminer l'envoi du psychiatre et pas une analyse de l'ensemble des risques psychologiques, peut-être avant même qu'il y ait des pertes ou un accident ou des événements comme la prise d'otage que j'évoquais en Bosnie. Donc très rapidement, après mon arrivée avec le général commandé de dispositif des forces françaises, le général Soriano, en étant mon mandat qui était la prise en charge des militaires de la compagnie qui avait subi, enfin, qui était confronté à la perte de deux des leurs, la mise en place d'une évaluation des risques psychologiques spécifiques à ce théâtre et la mise en place des mesures nécessaires au soutien psychologique des militaires des forces. Donc on réintègre la présence du psychiatre dans une mission, je dirais, élargie. Concernant les remarques que j'ai faites à propos de l'Afghanistan, c'est tout à fait aussi transposable à la République centrafricaine. Alors je vous cite simplement, je vous énumère quelques-uns des facteurs de risque que j'ai pu... alors c'est pas une activité propre au psychiatre, hein. Le commandement aussi fait sa propre évaluation des risques psychologiques et on les discute avec eux. Donc l'intensité du rythme opérationnel avec des fatigues, on est dans des contextes budgétaires extrêmement restreints, avec une logistique, je dirais, très ajustée pour ne pas dire autre chose, et des départs d'opérations qui se font dans des conditions à la fois physiologiques et psychologiques vraiment terriblement éprouvantes. Les accrochages et la menace vitale, les accrochages qui étaient pluricotidiens, la perte des camarades décédés ou blessés, bien sûr, la confrontation aux tueries et exactions intercommunautaires, l'acharnement, ça c'était assez particulier au théâtre centrafricain, sur les cadavres et autres actes macabres comme les actes d'anthropophagie. Et ça m'est arrivé sur des moments de déplacement avec les personnes que j'accompagnais, d'être confrontées directement à des actes d'anthropophagie dont je n'ai jamais très bien su s'ils étaient des actes de provocation vis-à-vis de nous ou d'un autre registre, mais qui étaient effectivement des spectacles tout à fait saisissants et impressionnants. Les soins aux blessés et les tâches mortuaires, les insultes, le déchaînement des foules et la contagion de la haine, la confrontation à la détresse des populations, parfois la perplexité sur l'atteinte des objectifs de la mission, la rusticité des conditions de vie. Et je dirais quelque chose, je vous disais tout à l'heure que l'Afghanistan, c'était un peu le référentiel pour les soldats. Et par rapport aux difficultés logistiques que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, 40% des patrouilles dans Bangui à feu et à sang se faisaient dans des véhicules non blindés. Et ça, le soldat d'aujourd'hui, ça passe très très mal. Et on le comprend parce qu'il a connu d'autres standards au niveau du matériel, et notamment sur la deuxième période de l'Afghanistan. Concernant les équipes médicales des forces, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, eh bien, le constat que je faisais, c'était l'usure des médecins qui avaient fait beaucoup de missions. Certains avaient fait l'Afghanistan, le Mali, arrivaient sur le théâtre centrafricain dans un laps de temps très très court, parfois plusieurs missions sur un même théâtre. Et la nécessité d'être particulièrement attentif à ces acteurs de santé, hein, ces médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires, qui ont une double exposition traumatique, de par l'objet même de leur activité, dans des conditions rustiques, et souvent dans des situations de menaces vitales. Hein. Donc on a, du coup, j'avais monté un groupe de travail, une enquête pour travailler sur cette population, mesurer le niveau, je dirais, d'impact de ces missions sur elle, et puis un certain nombre d'autres paramètres. Et je vous dirais juste un peu pour illustrer ce propos, Afghanistan, sur les périodes 2010, 2011, 2012, sur les équipes médicales des forces, 80% des infirmiers ont dû faire usage de leur arme dans des combats, 80% des infirmiers et 30% des médecins des forces. Donc c'est montrer qu'on est dans une activité qui est médicale, mais dans un environnement militaire extrêmement dangereux, et parfois des actions de combat qui ne sont légitimées pour des personnels sanitaires que dans des actions de sauvegarde, bien évidemment. Ce que j'ai remarqué aussi en Centrafrique, donc c'est le souci constant du commandement aux différents échelons de l'état psychologique de ces personnels. du général au commandant de compagnie. Et j'étais très étonné, c'était tout à fait nouveau pour moi, d'être interpellé par différents moyens, parfois par radio, par des commandants de compagnie qui souhaitaient me parler parce qu'ils se préoccupaient d'un certain nombre de choses, de comportements, de signes de détresse psychique manifeste de leur personnel pour me demander si je pouvais agir. Il fallait que je réinjecte, je dirais, le médecin des forces, le médecin généraliste dans la boucle, je dirais, de la prise en charge médicale de ces soldats. Mais ça montre quand même une évolution des mentalités qui est tout à fait considérable. Au point que ce qu'on se disait entre collègues, avec ceux qui m'ont succédé en Centrafrique, que la nouveauté pour nous, c'est que le commandement s'institue pratiquement comme un co-thérapeute du psychiatre, ce qui peut être un peu encombrant parfois, mais on ne va quand même pas, être mécontent en permanence. Ça montre ce concernement et je trouve que ça, c'est plutôt une trace des progrès qui ont été réalisés. Je vais terminer sur un point. Qui sont les SAS de fin de mission. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ces SAS de fin de mission. Quand on revient de mission opérationnelle, c'est assez compliqué de revenir dans notre vie ordinaire, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, parce que d'abord l'expérience humaine de l'opérationnel est très dense, très riche, et puis on a souvent vécu des événements très particuliers, très soit déstabilisants ou assez éprouvants, on est fatigué. Et la deuxième partie de l'Afghanistan, l'armée de terre avait institué un temps de transition entre le théâtre d'opération et l'arrivée dans les foyers, en l'occurrence c'était à Chypre, de 2 jours, qui est un temps de transition où un certain nombre d'activités, de détente, de débriefing aussi, de retour progressif à la vie normale, sont instituées, qui viennent faire, je dirais, une sorte de retour progressif à la vie normale. Je disais tout à l'heure à table, moi, quand mes enfants étaient plus jeunes et que je revenais d'opération, parfois ça durait 6 mois, c'était assez long, et ils m'appelaient professeur Tournesol. Ils m'appelaient professeur Tournesol avec un peu d'humour, comme ça, et en même temps, à la réflexion, je me dis que ça traduisait une profonde déception du niveau de disponibilité psychique dans lequel on pouvait être, si vous voulez, en revenant d'opération. Eh bien, ces 2 jours d'intervalle qui peuvent paraître peu de choses, ils changent quand même énormément sur le plan relationnel pour nos militaires quand ils reviennent sur le territoire national. Et le problème qu'on a eu sur le théâtre centrafricain, c'est que d'emblée, quand je suis arrivé, le général Soriano m'a dit « Je pense que cette mission est tellement difficile » qu'il va falloir mettre en place un SAS, et il m'avait demandé de l'aider à argumenter la demande pour le CPCO, c'est-à-dire l'état-major opérationnel interarmé. Ce qu'on a fait, et ça a été assez rapide, je dirais, puisque la réponse est arrivée le lendemain, ça a été un non. L'opération débutée, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé le non, mais du coup nous avons dû nous retourner, et on a bricolé, un dispositif sur le théâtre qu'on ne pouvait pas appeler légitimement un SAS, puisqu'on était dans l'ambiance des tirs, dans l'ambiance d'une ville, dans un état de guerre civile, mais qui a permis pendant 2 jours, de faire que des militaires arrêtent leur activité opérationnelle et de prévoir un certain nombre d'activités d'amélioration de leurs conditions de confort, de pouvoir voir un film dans une salle de cinéma improvisée, un certain nombre de choses qui leur permettaient là de se décrocher un petit peu de l'ambiance opérationnelle, de la tension opérationnelle, et pour préparer le réaccordage, familial avec le temps ordinaire. Donc on avait mis ça en place, on a fait une évaluation auprès de ces soldats, et malgré le fait qu'on restait quand même sur un théâtre opérationnel, on a eu des retours qui ont fait l'objet d'un travail extrêmement positif. Donc je trouve que ça a été une invention qui n'a pas été une invention du service de santé, c'était une invention, militaire de l'état-major de l'armée de terre. Ça existait dans d'autres armées, ça a été une réinvention, une adaptation, qui a eu des effets sur la santé des militaires tout à fait forts, même si je ne pense pas que ça prévienne les états de stress post-traumatique. Voilà, je vais terminer, si vous voulez, là-dessus. Je pense que j'ai dépassé largement le temps qui m'était imparti. Voilà, je vais m'interrompre là-dessus.
C'était très très riche. Tout à fait passionnant. Et pose des problèmes. Enfin, alors, je ne sais pas qui veut en soulever un. J'en ai un en vous écoutant. Je ne sais pas si je vais être capable de l'exprimer d'une manière claire. Partons de la notion d'esprit de corps. Donc, dans des unités suffisamment petites pour que les gens se connaissent les uns les autres, plus l'esprit de corps est intense, plus cette unité doit être efficace militairement. Mais d'un autre côté, cela fragilise psychiquement les éléments de cette unité, parce que plus le lien est fort, plus ce qui arrive aux autres doit toucher chacun. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, le fait que nous ayons une armée de métiers maintenant, est-ce que cela n'a pas fragilisé, dans une certaine mesure, nos soldats ? Enfin, non, ce n'est pas un problème français, enfin, c'est les armées actuelles.
Oui, enfin, pour répondre à cette question, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une force et ça peut être une faiblesse. Quand un militaire, je vais prendre un exemple peut-être pour essayer d'illustrer ça, c'est vrai que ces petits groupes de combat qui font 10, 12 personnes, en fait, je dirais, c'est quand vous parlez avec ces militaires de leur motivation, de leur accrochage à l'institution, la première chose qu'ils évoquent, c'est ça, c'est le groupe, c'est les liens d'amitié, de camaraderie, et je dirais même que dans le combat, c'est ce qui les tient le plus, hein, beaucoup plus que... Le régiment, le drapeau, l'idéal patriotique. Je ne dis pas que ça n'est pas là, mais ça n'est pas dans ce... Il y a des cercles concentriques. Quand un soldat est blessé et est rapatrié pour raison sanitaire, il y a donc le groupe qui est entamé qui va perdre une partie de lui-même. Et c'est très compliqué pour un soldat rapatrié de vivre son rapatriement parce qu'il laisse son groupe... Il le vit avec un fort sentiment de culpabilité, dont il vaut mieux qu'il ne se transforme pas en indignité, parce que dans ces cas-là, on est déjà dans un autre registre de souffrance psychologique. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le groupe continue par-delà le départ du militaire rapatrié, puisque quand on soigne, quand on est dans un service de chirurgie ou nos propres patients dans un service de psychiatrie, il y a le maintien d'un lien téléphonique ou par Skype, extrêmement étroit, quand c'est possible, mais quand même, c'était un autre aspect de mon exposé, mais je ne l'ai pas ouvert, l'irruption d'Internet sur le théâtre opérationnel, mais il y a des liens qui continuent, et les soldats qui sont restés en opération savent très bien comment va fonctionner celui qui est rentré, et ils sont là avec des propos extrêmement réparateurs, en voulant tout à fait rassurer leur camarade qui est parti sur la façon dont ça se passe, etc. Peut-être aussi en racontant quelquefois un peu des histoires, c'est pas impossible, mais on voit que le lien n'est évidemment pas réductible à la présence physique, mais ça vient quand même toucher le groupe, ça c'est tout à fait vrai. Et ça me fait intervenir un deuxième niveau de réponse. Dans les forces spéciales, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais il fut une époque où quand il y avait un incident, quelque chose qui s'était passé qui faisait qu'il y avait un ou plusieurs blessés, il y avait d'emblée une question qui se posait, est-ce qu'on rapatrie tout le groupe ? Voilà, donc ça répond à votre question sur le fait que cette préoccupation n'a pas été que la vôtre, mais maintenant ça se fait moins, honnêtement, hein, je le vois, parce que d'abord on aurait un énorme problème au niveau de l'organisation RH sur le plan de la menée des opérations.
Ce que vous dites là, c'est très intéressant, parce que c'est exactement ce qui se passe pendant la guerre de 14. Hein. Les hommes vivent dans l'escouade. Et pour eux, c'est l'escouade qui compte. Hein. C'est pas pour rien que le feu de Barbus est sous-titré « Histoire d'une escouade ». C'est la patrie, c'est l'escouade. Hein. Et c'est ça qui compte. Et ils se battent pour ça. Et à toutes les époques, pour ça. Et au maintien des gens qui se sont absentés, on en trouve des traces, par exemple, par le maintien dans l'effectif des morts. Je veux parler de la tour d'Auvergne, par exemple. La tour d'Auvergne, qui a été tuée dans son régiment... Jusqu'à la disparition du régiment en 1991 ou 12, il était capitaine quand il est mort, dans la compagnie où il était toujours présent. Et quand on faisait l'appel de la compagnie, quelqu'un répondait présent. Son nom, il est toujours sur les registres. C'est vrai aussi dans l'armée russe. Hein. L'héritier du régiment Normandie-Niemen a des noms de pilotes qui sont maintenus, dont quatre Français, et leur carnet de vol n'est pas fermé. Et chaque mois, un pilote russe vole une heure pour ses morts. Hein. C'est une psychologie assez intéressante. Hein. Je voudrais vous poser quelques questions. La première, qui décide de l'envoi, qui lance l'appel? C'est l'unité. Ça, c'est vous qui dites. Comment ça
C'était ma conclusion.
Ah bon, non.
C'est, je trouve, assez aléatoire. C'est-à-dire, je trouve qu'il n'y a pas une vraie réflexion sur comment on décide de l'envoi d'une structure médico-psychologique qui commence le plus généralement par un psychiatre. Donc, l'aléa, c'est souvent, enfin, je l'ai esquissé tout à l'heure, mais un fait perturbant, perturbateur, des décès ou d'autres faits. Mais il n'y a pas, et c'est là où je trouve qu'il y a un différentiel entre l'acceptation du fait psychique par les armées, mes chefs ne seraient pas très contents d'entendre ça, et celle du service de santé des armées, il y a le maintien au niveau du service de santé des armées, et en tout cas de la conduite des opérations, une certaine réticence à envoyer un psychiatre. Et à la fois, ce que je voudrais dire, c'est que la question, ce n'est pas d'envoyer un psychiatre systématiquement, c'est d'étudier l'intérêt en tenant compte d'un certain nombre de facteurs opérationnels. Si je prends le Mali, il n'y a aucun intérêt à envoyer un psychiatre au tout début de l'entrée de théâtre. Il y a des priorités très importantes sur le territoire malien avec son étendue. Eh bien, pour tenir nos standards d'évacuation médicale, il a fallu réfléchir au nombre de structures médico-chirurgicales, leur espacement par rapport à la taille du théâtre. Ça, c'est une hiérarchisation première, et contrairement au début de la guerre de 14 qui était évoquée tout à l'heure, quand on pense une opération, on pense tout de suite la chaîne d'évacuation sanitaire, c'est-à-dire qu'on donne aux soldats l'assurance d'être secouru avec le meilleur standard dans le délai le plus bref. Hein, c'est très important. Mais concernant l'envoi de psychiatres, pour le Mali, par exemple, je suis à Percy et je vois arriver les premiers blessés. Plutôt des blessés léchés, de la petite orthopédie, mais quand nous sommes allés les voir, on a eu 30 blessés, orthopédie, je dirais, sur des blessures relativement légères. On a une procédure systématique à Percy pour faire une évaluation psychologique de tous les rapatriés sanitaires qui arrivent. En premier lieu, les blessés physiques. Et plus de la moitié présentaient des états de stress aigu caractérisés. Donc là, on commence à avoir des premiers signaux d'alerte, je dirais, sur l'impact psychique de cette opération à son stade débutant. Donc, qu'on va répercuter au niveau de notre hiérarchie, l'UMO Santé, hein, de notre structure opérationnelle qui est en lien avec le CPCO, mais on sent que, alors, il y a du flottement, il y a aussi le fait que dans le contexte à la fois logistique, budgétaire actuel, d'emblée quand on ouvre un théâtre d'opération, ce ne sont pas les questions dont je suis très familier, mais vous avez un format qu'il ne faut pas dépasser. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce format-là? Donc il y a, donc quand un psychiatre arrive sur un théâtre d'opération, il est toujours supraformat, j'ai envie de dire, mais ça on ne le fait pas au début. Voilà.
Il n'y a pas quelqu'un qui le résume méchamment en disant au premier sang, c'est-à-dire au premier mort, on
envoie un psychiatre. C'est ce que j'ai entendu sur la Centrafrique avec le refus d'ouvrir un sas de fin de mission, ça a été un propos amer du « il faut qu'il y ait du sang versé ». Mais le sang, il était versé, mais le sas n'a pas ouvert. Voilà.
Une autre question. Vous parlez là de 9 morts à Ouzbine.
Oui. En fait, il y en a eu 10, il y en a eu un fait d'un accident de vol.
Mais enfin, c'est au moins une dizaine. Oui. Et ça a déclenché tout à fait. La guerre de 14, tous les jours de la guerre de 14, c'est 900 morts par jour. 100 fois plus par jour. Avec des pics comme le 22 août, 27 000 morts. Est-ce qu'à l'époque, ça a provoqué quelque chose? Et est-ce que maintenant, on n'est pas capable de répondre à à de telles pertes?
Faites-lui la réponse que vous m'avez faite à moi il y a quelques...
Je ne sais plus quelle réponse je vous ai faite, mais la réponse que je vous fais par rapport à... La réponse que je vous fais aussi par rapport à ça, c'est la question qui se pose dans le post-attentat de ce mois de novembre, et que l'ARS Île-de-France nous a contactés, l'hôpital de Garches, pour commencer une réflexion sur cette thématique-là, qui est qu'on n'est pas, on n'a pas pensé la réponse à des événements qui ont des impacts sur des effectifs de grande ampleur, même sur le territoire national, hein, évidemment. Alors déjà, notre dispositif service de santé des armées est relativement faible. Alors on a, ça marche bien, on a une chaîne logistique, enfin moi, c'est assez remarquable. On a des procédures en cas d'afflux massif de blessés. Il y a aussi, je dirais, une coopération internationale avec d'autres moyens d'évacuation d'autres pays européens. Donc il y a quand même ce qu'il y a. Alors je ne suis pas très qualifié pour vous répondre sur ces questions-là, mais ce qui est assez réjouissant pour moi comme praticien militaire et comme militaire, c'est qu'on s'aperçoit que même dans les situations d'anomie forte, il y a toujours une capacité d'organisation et de prendre en compte des situations dont parfois l'ampleur n'a pas été anticipée malgré nos plans. Donc oui, on peut imaginer qu'il y a des situations qui seraient totalement dépassées, mais on fait aussi avec...
Dépassées pendant un certain temps.
Pendant un certain
temps. Nous sommes une espèce problématique qui donc, à qui des problèmes sont adressés et qui depuis 100 000 ans essaie et réussit à les résoudre.
Vous avez parlé de récits communs qui se faisaient de l'événement. Je reviens à la guerre de 14. C'est exactement ce qui s'est passé avec les historiques régimentaires qui ont été rédigés par les associations d'anciens combattants. Et on voit bien que c'est pas de l'histoire. Hein. J'en ai même trouvé un où il disait, si vous voulez avoir des renseignements précis de l'histoire, allez voir ailleurs, parce que nous, ils racontent leur vie, leur guerre à eux. Hein. Et donc, et tout le monde est d'accord pour raconter ça. Et c'est ce que le véhicule.
Hein, c'est la part subjective de... C'est le ressenti, c'est la part subjective. Mais si on lit même les grands auteurs de la guerre de 14, on a souvent ça, et ce sont souvent les meilleurs récits, je dirais.
Oui, bien sûr.
S'il vous plaît. C'est une question importante, parce qu'il y a le général Morillon qui frétille.
Est-ce que pendant les OPEX, il y a... des périodes d'interruption pendant lesquelles les hommes sont mis au repos quelque part pendant quelques jours hors de tout du bruit de la campagne ou autre?
Non, ou ça a été très rare, ou sur des opérations refroidies, je dirais, au moment Kosovo, dans la période refroidie, pouvait y avoir des courts week-ends en Croatie. Enfin, moi, j'ai pas connu ça parce que j'étais au tout début. Par contre... Si je reprends un mandat en Afghanistan qui a été particulièrement difficile, avec beaucoup de pertes en morts et en blessés, on a eu une unité très opérationnelle, qui était le premier CP, qui a été dans un moment vraiment de flottement opérationnel, et on a mis en place avec le commandement et la psychiatre qui était sur place, une période de 10 jours où on les a mis dans une situation hors activité opérationnelle et avec des moments de détente, mais c'est tout à fait exceptionnel. Après, il va y avoir des temps sportifs ou des, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple sur l'histoire de l'Afghanistan, enfin, c'est un peu aussi la dimension subjective qu'on évoquait tout à l'heure que je vous rapporte, mais où il y a eu des moments où chaque sortie était accompagnée d'un combat pour les militaires qui sortaient, et quand ils revenaient, moi j'étais assez stupéfait de les voir quelques heures après jouer à la pétanque dans l'emprise de la FOB et rigoler ensemble. Voilà, donc il y a des capacités comme ça aussi à côtoyer à la fois des moments très difficiles où il y a une menace vitale, où il y a l'excitation hein, aussi, il y a des émotions extrêmement, extrêmement fortes, et puis des temps comme ça de coupure et de détente. Mais ce n'est pas des coupures opérationnelles, là. On est dans des rythmes à l'intérieur de l'opération.
Pendant la guerre de 14, il s'est posé la question des permissions. Et les premières arrivent au cours de l'été 1915, et il y a eu un frein énorme mis par le commandement pour sortir les hommes des combats. Et finalement, quand ça a été ordonné, donné, ça s'est fait. On s'est aperçu que les hommes en bénéficiaient. C'était très bon pour leur morale, c'était très bon pour... Et ils ne désertaient pas. Ah, non, ils sont revenus.
Quand on lit les récits, quand ils parlent des permissions, ils sont très amers. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a tel décalage entre ce qu'ils vivent
mais,
et
oui,
ce qu'ils
vivent. Oui, il y a ça aussi.
Mais ils reviennent, effectivement.
Mais oui, mais ça n'a pas fait baisser le moral, au contraire.
Bon, merci. Allez-y. Moi, je veux bien.
Une toute petite chose. Je suis assez étonné, quand même, de ce que vous dites sur le peu de prise en compte de la souffrance psychique des combattants. Il y a environ une vingtaine d'années, une commission qui avait, je crois que c'est 1992, je pense à peu près, qui a été réunie autour de la pathologie d'AFN, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et à laquelle ont participé des gens que vous avez cités, il y avait Croc, Barbois, etc. C'est ce qui avait permis, par exemple, la reconnaissance du fait qu'il y ait une survenue différée aux amibiases, donc chez les... Mais ce qui avait été, je les ai lus, les actes, et ce qui apparaît, c'est, ce qui est bien dit, c'est qu'il y a cette souffrance psychique qui n'est pas propre à un conflit particulier, mais qui est bien une généralité à l'ensemble des combattants.
Et l'exemple que vous prenez, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'était quand même très confiné aux psychiatres militaires. Le décret du 10 janvier 1992, qui est remarquablement rédigé, je ne sais pas si vous l'avez lu, il faut le lire véritablement, a été effectivement écrit par des psychiatres militaires. Il sort quelque chose qui est considéré comme une bourde, enfin, monumentale au regard de l'orthodoxie, de l'expertise, qui est qu'une bonne expertise doit avoir une valeur thérapeutique, par exemple. Une expertise bien menée. Vous voyez ? Mais et ce décret institue, et je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure, ou vous l'aviez écrit sur une de vos diapos, institue les troubles psychotraumatiques, les états de stress post-traumatique au rang de véritable blessure. Donc c'était 92 et c'était effectivement une reconnaissance d'un particularisme de ces troubles psychiques. Mais c'est très ponctuel.
Le général Cros et le rédacteur de... Voilà, ils sont venus parler ici. Il y a eu deux journées sur guerre et psychologie. Et nous entendre. Ça va paraître là en 2016.
Quand j'avais fait venir Barrois, vous vous souvenez ce qu'il avait dit ? Le décret scélérat. Ils ont été rédacteurs.
Alors que vraiment, quand on lit les comptes rendus de la commission, c'est encore très juste et c'est très riche.